Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? Vous n'êtes pas encore dans la phase régime parce qu'il y a encore un réveillon à passer? Nous avons passé un beau dimanche, dimanche passé, je ne sais pas qui... Enfin, pas mal d'entre vous étaient là dimanche passé. Et c'était vraiment merveilleux de passer ce temps à se rappeler de l'avènement de Jésus-Christ, de se souvenir que ce Dieu immense, créateur, est venu jusqu'à nous, et comme on le dit, dans l'humilité la plus profonde, dans un enfant qui vient de naître, fragile, un enfant qui naît dans une mangeoire. Et puis cet enfant a grandi. Et je voudrais que vous preniez juste un instant pour réfléchir, peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence, s'il n'y a pas un ou deux moments qui sont constitutifs, qui pèsent, qui racontent ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Luc nous parle de la naissance de Jésus, et puis dimanche prochain ou la prochaine fois qu'on reprendra l'évangile de Luc, on va se retrouver avec un homme qui débute dans le ministère, il a une trentaine d'années. Et entre les deux, Luc raconte juste deux événements. Toute cette enfance, toute cette croissance, elle se centre autour de deux événements, et ces deux événements ont vocation à nous dire finalement qui est Jésus. Qui est cet homme que l'on voit d'un seul coup apparaître et débuter à son ministère. Ces deux événements, on les trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Alors, si vous avez cette version de la seconde 21, c'est page 661. Et au verset 21, vous voyez, on a un premier événement, et cet événement se conclut au verset 40 avec cette phrase « Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Et puis on a un deuxième événement qui nous est raconté juste à la suite, et celui-ci se conclut au verset 52 avec cette phrase « Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et quand on passe au chapitre suivant, au verset 1, ça y est, c'est parti, le ministère de Jésus est là. Ces deux affirmations qui encadrent ces événements nous disent que Jésus grandit physiquement en sagesse, en grâce, et que deux événements ici qui l'encadrent vont nous permettre de répondre à sa question « Mais qui est ce Jésus ?» qui va se présenter au chapitre 3. Et je voudrais lire avec vous, et je voudrais que vous fassiez attention au cours de la lecture de ce texte à deux choses. À comment on parle de la loi dans ce texte, et où on est. Comment on parle de l'endroit où l'on est. Et je commence la lecture au verset 21. Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Or, la période de leur purification prit fin conformément à la loi de Moïse. Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant tout ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph ne s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient, ils les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Au verset 22, il l'amène au temple, mais c'est conformément à la loi de Moïse. Au verset 23, il présente Jésus suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Au verset 24, ils offrent un sacrifice conforme aux prescriptions de la loi du Seigneur. Au verset 27, ils accomplissent tout ce qui est prévu par la loi. Au verset 39, ils ont accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur. Au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque, une fête qui était prescrite par la loi. Et on a vu, Luc insiste sur un autre point, la localisation de ces événements. Au verset 22, Joseph et Marie l'amènent à Jérusalem. Au verset 25, or il y avait à Jérusalem. Au verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. Au verset 36, 37, Anne ne quittait pas le temple. Au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. 43, mais l'enfant restait à Jérusalem. Au verset 45, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple et ainsi de suite. C'était pas très bon en rédaction. Mais il y avait des fois, on me disait, ça suffit, tu l'as dit. Tiens, on a compris, on sait ce qui se passe. Et Luc aurait pu écrire ça de manière à éviter toutes ces lourdeurs, ces répétitions. Mais celles-ci nous mettent dans le cœur de son texte. En fait, il y a 2 rencontres qui vont se passer en 2 temps. Une avec Siméon et Anne, et puis une autre au cœur du temple avec les maîtres de la loi. Et nous allons commencer par la première section qui nous parle de cette rencontre avec Siméon et Anne. En fait, Luc, lorsqu'il nous parle de la venue de ses parents au temple à Jérusalem, passe très vite finalement sur ce qui a conduit à ce qu'ils viennent. Il évoque, sans bien rentrer dans les détails, 2 rites qui avaient lieu à la naissance. Le premier, c'est le plus connu, c'était la circoncision. Ce geste, en fait, était accompli par les Juifs depuis Abraham. Il était inscrit dans la loi de Moïse et il était accompli le 8e jour et il marquait la séparation du peuple juif des non-juifs. Il symbolisait leur relation unique avec Dieu. Et ce jour-là, l'enfant recevait son nom, il faisait son entrée officielle dans le peuple de Dieu. Et puis il y avait une deuxième rite, c'était le rachat du premier-né. Et la loi stipulait que tout premier-né devait être consacré à Dieu. Et c'était pour le peuple l'occasion de se souvenir que tout appartient à Dieu sur cette terre, que lui seul est celui qui donne la vie. Et l'enfant, par exemple Samuel, n'a pas été racheté à Dieu. Et n'ayant pas été racheté à Dieu, sa vie a été consacrée à Dieu et il a été éduqué auprès d'Élie dans le temple et il a servi Dieu toute sa vie. Mais en fait, Luc passe très rapidement cela, parce que Luc veut nous parler de deux rencontres qui se passent à ce moment-là. L'une avec Siméon, l'autre avec Anne. Deux personnes qui rencontrent Jésus, notre Sauveur. Siméon, on ne connaît pas son passé, on ne connaît pas ses parents, on ne connaît pas son métier, on ne connaît pas son âge. La tradition évoque un homme âgé, et ça semble assez cohérent avec ce qu'il dit dans le texte. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Il nous est dit un homme, mais pas n'importe quel homme, regardez. Il nous est dit que c'est un homme juste et pieux. Et cette expression, Luc l'a déjà utilisée pour désigner Zacharie. Il nous est dit une deuxième chose. Il attendait. Il attendait la consolation d'Israël. Mais en fait, tout le monde l'attendait. C'était le cas de tout le peuple. Ils vivaient sous l'oppression des Romains et leur propre roi, Hérode, était cruel, lâche. Il exerçait son pouvoir avec brutalité. Et la seule issue pour les Juifs, c'était la venue du Messie, celui qui était choisi par Dieu pour délivrer son peuple. Mais il nous est dit quelque chose de plus. C'est que l'Esprit-Saint était sur lui. L'Esprit-Saint lui a révélé certaines choses à propos du Messie. L'Esprit-Saint l'a poussé à venir au temple où il va découvrir Jésus avec ses parents. Et là, Siméon reconnaît instantanément Jésus. Il est ce Messie tant attendu. Il bénit Dieu, il bénit ses parents. Et l'attente était vraiment intense à ce moment de l'histoire. Le peuple n'a quasiment plus jamais été ni uni ni en paix depuis 1000 ans, depuis la mort de Salomon. Il y a eu des guerres, il y a eu l'oppression des empires qui se sont succédés, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains, et le Messie devait apporter la paix. Et cette paix, Siméon l'expérimente aussitôt qu'il voit le Messie. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Maintenant, je peux partir en paix, car j'ai vu ton salut, un salut que tu réserves à Israël devant tous les autres peuples. » Siméon comprend quelque chose. Il vient de comprendre que le salut n'est pas un salut terrestre, il est un salut éternel. Regardez ce qu'il dit. Il peut partir en paix. Il n'est pas en train de dire « Maintenant, on va être délivré des Romains, on va être délivré et puis je vais vivre la paix. » Et enfin, il dit non. « Maintenant que tu es là, je peux partir en paix parce que ton salut est un salut éternel. » Il peut mourir parce que même la mort ne pourra pas altérer cette paix, car le salut est venu jusqu'à lui. Mais en fait, sa compréhension va aussi plus loin, regardez. Il dit que ce salut n'est pas le salut des Juifs en tant que peuple de Dieu contre les non-Juifs. Regardez ce qu'il dit au verset 34 et 35, cette phrase étonnante. « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Et puis il continue avec Marie, « Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Qu'est-ce que Siméon est en train de dire ? Qu'il va y avoir une séparation, mais que cette séparation n'est pas entre les Juifs d'un côté et le reste du monde de l'autre, elle est entre ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Cette division, elle va traverser même le peuple d'Israël. Même dans Israël, il y aura des gens qui seront sauvés et des gens qui ne le seront pas. Même chez les païens, il y aura des gens qui seront sauvés et des gens qui ne le seront pas. Et c'est une révolution pour eux. C'est une révolution pour ce peuple qui croyait qu'il était sauvé parce qu'il était le peuple de Dieu, parce qu'ils étaient les descendants d'Abraham. Il vient de comprendre que Dieu ne sauve pas sur la base de l'appartenance à un peuple, mais il sauve parce que l'on croit en lui. La seule base du salut, c'est la foi. La foi d'un Siméon qui, lorsqu'il rencontre Jésus, voit le salut de Dieu. Et en fait, l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains que la foi a toujours été le salut de Dieu, que le salut de Dieu a toujours été basé sur la foi. Il dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu et que cela lui a été compté à justice. Autrement dit, c'est parce qu'Abraham a cru en Dieu que Dieu l'a considéré comme juste. Ou que, comme il le dit au verset 8, Dieu ne tient pas compte de ses péchés. La deuxième chose que Siméon est en train de réaliser, c'est que par rapport au Messie guerrier qui était attendu, au Messie victorieux, il n'est pas en face d'un nouveau David qui va lever une armée, qui va se battre contre l'envahisseur. C'est un Messie qui va souffrir au point que sa mère en aura le cœur transpercé, comme par une épée. Mais que finalement cette souffrance que le Messie va vivre révélera les cœurs, les pensées. Car c'est en croyant que Jésus est mort et a souffert pour porter nos fautes que nous sommes sauvés. La première chose que nous apprenons au travers de ce texte, c'est que rencontrer Jésus, c'est pour nous recevoir la paix. Et pas la paix intérieure qui est proclamée par bien des religions. Pas une paix qui dit que nous allons nous sentir bien parce qu'on va accepter finalement ou s'accepter, qu'on sera bien avec nous-mêmes. En fait, cette paix, c'est la paix avec Dieu. C'est une paix objective établie par Dieu lui-même. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, Dieu dit qu'il nous a déclarés justes sur la base du fait que le prix de nos péchés a été payé à la croix. Nous sommes en règle avec Dieu. Ce petit bébé que nous avons vu à dimanche passé va grandir. Il va être celui qui, par son œuvre, va nous acquérir la paix. Ce Messie, en fait, c'est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, qui dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé, puni, humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Avez-vous rencontré le Messie souffrant qui donne pour vous sa vie? Deuxième rencontre. Nous avons un peu plus d'informations sur Anne que pour Siméon. Nous connaissons son activité, c'est une prophétesse, une femme qui parle de la part de Dieu. Et ça déjà, c'est étonnant. On l'a dit, Matthieu l'a souligné, ça faisait 400 ans que Dieu ne parlait plus. Il n'y avait plus de prophète en Israël. Il n'y avait personne pour parler de la part de Dieu au peuple, mais Jésus arrive et Dieu permet qu'il y ait une prophétesse qui soit là, qui parle de sa part. Et nous connaissons sa famille, elle est fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Nous savons qu'elle est veuve depuis longtemps. Certains calculent et disent qu'elle aurait éventuellement 84 ans, mais c'est pas si facile, mais c'est une femme âgée. Nous connaissons aussi sa piété. Cette fois, de Siméon, il nous était dit qu'il était juste et pieux, et cette fois-ci, sa piété nous est décrite de façon pratique, en fait. Il nous est dit qu'elle reste dans le temple jour et nuit. En fait, elle est continuellement dans le temple pour servir et pour louer à Dieu. Par contre, si Luc nous a dévoilé toute la scène de la rencontre entre Siméon et Jésus, ici, on ne sait pas grand-chose, finalement. On sait juste qu'elle remercie Dieu à propos de la naissance de Jésus, et qu'elle l'annonce à ceux qui attendent la délivrance. Et en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est un peu cette espèce de contraste entre une vieille dame qui nous est décrite, pardon pour ceux qui ont 84 ans, ou plus, et l'espèce de danse de joie qu'on s'imagine quand on lit le texte. où on voit qu'elle bondit dans tout Jérusalem et qu'elle est là. Il est arrivé, le Messie est là, je l'ai vu. Le libérateur est là, venez le voir, venez le rencontrer. Et cette joie déborde. Est-ce que Jésus est notre joie? Est-ce que nous avons réalisé l'importance de la rencontre que nous avons faite avec lui? Est-ce que nous avons juste une relation légale avec Jésus et avec Dieu? Ah, il a pardonné mes péchés, j'irai au ciel et tout va bien en fait. Et le reste ne m'intéresse pas. Je me fiche complètement de savoir qui est Jésus. Je me fiche complètement d'avoir une relation. Je veux juste croire que Jésus est mort parce que au moins comme ça j'irai au ciel. Mais ma vie ici, c'est ma vie. Et on verra bien un jour ce qui se passera. Est-ce que cette rencontre qui nous a donné une paix objective avec Dieu nous a aussi remplis de joie? Est-ce que nous avons découvert l'amour de Jésus-Christ qui vient en personne pour nous racheter? Est-ce que nous avons réalisé que nous n'avons plus besoin de trimer, de travailler pour être acceptés par Dieu? Nous n'avons plus besoin d'être bons pour être aimés. Il nous a aimés et nous aimera toujours. Cette rencontre, c'est la rencontre de notre vie. Et cela se voit à la joie qu'elle produit en nous. Et peut-être que c'est aussi le temps, des fois, de se poser des questions. Comment est-ce que je vis ma vie chrétienne? Est-ce que les gens qui m'entourent dirait qu'il y a de la joie dans ma vie? Ou est-ce que je n'ai peut-être pas saisi toutes les implications? Peut-être que ce qui m'intéresse, c'est de ne pas mourir. Peut-être que ce qui m'intéresse, c'est juste de ne pas aller en enfer, parce que j'ai peur de ça. Mais Jésus veut quelque chose de plus grand pour vous. Il veut transformer votre vie. Il veut vous donner la joie. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans difficulté. Ce n'est pas la promesse d'être à l'abri de son péché. Ce n'est pas la promesse d'être à l'abri du péché de ce qui nous entoure. C'est la promesse que dès aujourd'hui, nous pouvons nous saisir par la foi de cette paix, de cette joie au cœur de ce que nous vivons, en attendant qu'elle soit parfaite dans les cieux. C'est la foi qu'un jour, nous vivrons réellement la paix et la joie dans la présence de Dieu et que nous voulons commencer à le vivre aujourd'hui. Parce que le Jésus que nous rencontrons n'est pas seulement un homme qui grandit, il est aussi Dieu venu sur cette terre. Et je voudrais voir ça avec vous dans la seconde section du texte. Du temps a passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où Jésus avait 8 jours et 12 ans? Aucune idée. Aucun évangéliste ne nous le rapporte. Nous arrivons, Jésus a 12 ans, et Luc choisit de nous raconter ce moment. En fait, le texte nous dit que les parents de Jésus se rendaient toutes les années au temple pour la Pâque. Et pourquoi il ne veut pas raconter celle où il avait 11 ans, ou 10 ans, ou 9 ans? En fait, 12 ans, c'était l'âge où l'enfant était tenu d'observer la loi. En fait, durant leur enfance, les parents avaient la responsabilité de faire apprendre la loi par cœur à leurs enfants. Et à 12 ans, l'enfant était considéré comme responsable du fait d'appliquer lui-même cette loi. En fait, à 12 ans, il devait commencer à jeûner comme les adultes. Il devait commencer à se rendre au temple pour les fêtes religieuses. Et en fait, dans la première rencontre, ce que nous avons vu, c'est que Jésus a parfaitement accompli la loi, mais finalement de façon assez passive. Dieu a permis que ses parents fassent tout ce qui était nécessaire pour que Jésus ait parfaitement accompli la loi. Mais ce n'est pas lui qui a demandé d'être circoncis. Ce n'est pas lui qui... Dieu a permis que son père Joseph et sa mère le fassent pour lui. Et ainsi, Jésus, depuis sa naissance, est l'homme parfait dont nous avons besoin. Mais maintenant, Jésus a grandi et Jésus devient celui qui accomplit lui-même la loi. 3 fois par an, en fait, l'année juive était rythmée par les fêtes religieuses. Et pour 3 d'entre elles, en fait, la loi prévoyait qu'on devait aller au temple. Et c'était une prescription qui datait même d'avant la construction du temple. On trouve ça dans Deutéronome 16:16. Trois fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, la Pâque, à la fête des semaines qui célèbre le début de la saison des moissons du blé et du don de la loi, à la fête des tentes ou des tabernacles, à la fin des récoltes, et en fait là la providence de Dieu dans le désert. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Et lorsque le Salomon aura construit le temple, celui-ci deviendra le lieu choisi. Et Jésus effectue là ce que demande la loi en se rendant à Jérusalem avec ses parents. Lorsque la fête est terminée, on rentre. Tout le monde rentre. Pas vraiment. Parce qu'au bout d'une journée de marche, ses parents finissent par comprendre que Jésus n'est pas dans la foule qui rentre à Nazareth et se met à sa recherche. Alors ça peut peut-être nous paraître bizarre à nous qui, au bout de 3 minutes, commençons peut-être à nous inquiéter de où sont passés nos enfants. Il faut peut-être prendre en compte de 3 éléments. À 12 ans, en fait, même si l'enfant restait chez ses parents ou il apprenait un métier, il y avait un cap qui était franchi, en fait. Il était responsable vis-à-vis de la loi. Et il n'était plus considéré comme un enfant au sein du foyer. La deuxième chose, c'est qu'il y avait des milliers de personnes qui se déplaçaient à ces moments-là. Et c'était une foule qui se déplaçait en chantant. Et on a notamment une partie des psaumes qu'on appelle les psaumes de montée qui étaient sans doute chantés pendant ces déplacements. L'autre chose, c'est que si je suis très attentif à mes enfants, c'est qu'ils ont déjà péché. Et je me dis que ça peut recommencer. Ne regardez pas comme ça. Jésus n'a jamais péché. Jamais, 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 jamais. Et vous ne seriez pas en totale confiance avec un enfant comme celui-ci. Est-ce que vous vous sentiriez vraiment obligé de le surveiller, d'être derrière lui, de voir qu'il n'est pas en train de craquer une allumette? Il n'y a pas d'allumette à la maison. Et le texte ne fait aucun reproche aux parents. Le texte ne dit pas que les parents ont mal fait. Finalement, au bout de 3 jours quand même, il le retrouve, et voici qu'il est là où il ne devait pas le chercher, parce qu'ils ont mis 3 jours pour le trouver. Il est au milieu du temple, et il écoute, et il interroge les maîtres du temple. Alors les parents viennent le voir, ils lui disent, mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous? Ton père et moi, on te cherchait, avec angoisse. Mais voici sa réponse. Pourquoi me cherchez-vous? Et vous ne saviez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Cette réponse, c'est l'affirmation de Jésus qu'il n'a pas fui, qu'il n'a pas fait de bêtises ce jour-là, pas plus qu'avant. Jésus vient de s'affirmer comme fils de Dieu. Il vient de dire « Je suis exactement là où je dois être ». Il veut confirmer qu'il n'y a pas de rébellion, en fait. Et Luc conclut en nous disant que Jésus descend pour aller à Nazareth avec Dieu. Et il ajoute dans le texte que Jésus leur est totalement soumis. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, on a peu d'informations sur le contenu de la rencontre. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont racontés. Mais Luc nous dit ceci. Jésus est assis au milieu des maîtres de la loi. Il les écoute, il les interroge. Et voici la suite. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Jésus, le jeune homme de 12 ans, est assis là au pied des maîtres de la loi, de ceux qui passent leur vie à étudier scrupuleusement tous les détails de l'Écriture, à les enseigner. Il est avec ceux à qui on pose des questions quand on veut savoir quelque chose sur Dieu. Si vous voulez savoir quelque chose sur Dieu, vous alliez voir les maîtres dans le temple. Il écoute et il pose des questions, mais ce sont eux qui sont stupéfaits de son intelligence. Il n'est pas en train de leur faire la leçon. Il écoute, il pose des questions et ils sont stupéfaits de son intelligence. Et voici ce qu'ils se disent. Qui est ce jeune homme? Qui peut bien faire cela? Et Jésus leur répond en répondant à la question de ses parents. Ne saviez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père. » Jésus n'est plus présenté ici comme l'homme parfait, celui qui a accompli parfaitement la loi, mais comme le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu qui se tient dans sa maison. On a déjà dit que Dieu était resté silencieux pendant 400 ans. Mais il faudrait rajouter aussi que Dieu est absent depuis l'époque d'Ézéchiel. Ils avaient vu à l'époque la nuée s'élever au-dessus du temple et puis s'éloigner de Jérusalem. Mais Dieu est de retour parmi son peuple. C'est lui qui est au milieu. Il écoute, il pose des questions, mais c'est lui qui impressionne par sa sagesse et sa connaissance. À 12 ans, on était formé par le Père pour apprendre son métier et Jésus va devenir un charpentier. Mais déjà, il marque sa divinité. Il s'occupe des affaires de son Père. Avait-il besoin d'être circoncis pour marquer son apparence à Dieu ? Non. Il est pleinement Dieu. Avait-il besoin d'être racheté à Dieu ? Non. Sa vie va être entièrement, pleinement consacrée à Dieu. Il va pleinement accomplir la volonté de son Père. Jésus vient à peine d'arriver dans ce monde que déjà il montre un nouveau chemin. Siméon et Anne ne s'y trompent pas. Il vient apporter un changement. Il vient apporter un salut radicalement différent de tout ce qu'ils avaient pu croire. Un salut qui dépasse les peuples, un salut qui est la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le salut manifeste la gloire de Dieu ? Parce que pour l'obtenir, nous n'avons rien à faire. Si vous et moi avions quelque chose à faire pour notre salut, Dieu ne serait plus glorifié par celui-ci. Nous allons faire une pause de quelques semaines où on va passer sur une autre petite série et puis on reviendra dans cet évangile de Luc. Et on va découvrir un homme parfait, un homme qui accomplit la loi de manière pleine, entière, qui se soumet à toutes les exigences de Dieu. Un homme qui a vécu sans péché et qui peut se présenter devant Dieu pour porter les nôtres, parce qu'il est un homme, le fils de Joseph. Mais on va aussi découvrir un homme qui est aussi parfaitement Dieu et qui peut pardonner nos péchés. Parce que souvenez-vous des paroles du roi David. Quand il confesse son péché à Dieu, il dit « C'est contre toi seul que j'ai péché. » Et il veut dire par là que à chaque fois que nous péchons, Dieu est le premier offensé. Est-ce que je peux pardonner les péchés que vous avez commis envers quelqu'un d'autre ? Non. Seul celui qui est offensé peut pardonner les péchés. Et parce que Jésus est pleinement Dieu, il peut pardonner nos péchés. Dieu refuse de passer un coup d'éponge sur nos péchés. Il refuse de dire « j'en ai rien à faire, ça ira ». Dieu nous aime au point de venir lui-même sur cette terre, prendre notre place, vivre la vie que nous n'avons pas pu vivre. Et il va mourir de la façon dont nous aurions dû mourir. C'est ce que Luc est en train de nous présenter tout discrètement au début de cet évangile. En mesurant cela, nous réalisons la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour, la grandeur de ce qu'il fait pour nous. Et nous pouvons le louer. Je voudrais encore prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait, pour la perfection de ton plan de salut. Aucun de nous n'aurait pu imaginer cela, que le Dieu créateur de l'univers vienne comme un bébé faible dans une crèche. qu'ils grandissent sur cette terre, marchent, nous montrent ce que c'est qu'une vie sans péché, qu'ils nous montrent ce que c'est qu'une vie qui te glorifie parfaitement, mais qu'au bout de cette vie, il accepte de prendre nos péchés sur lui. Lui qui était l'offensé meurt pour payer le prix de nos fautes. Et nous voulons te prier pour que dans nos cœurs, tu graves cela, que tu nous aides à le comprendre et que cela prenne du poids dans nos vies, pour que nous puissions être en paix avec toi et remplis de joie. Remplis-nous de la paix et de la joie de ton salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.